Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour du débrief de l'Actu Tech avec ce soir. Ils sont bavards tous les deux, ils discutent pendant la pub, pendant les infos. Je pense qu'on
fait
est
le débrief du débrief.
On est en train de voir une belle amitié naissante entre Salim Nassur et Damien Douani.
C'est une quinzaine d'années qu'on se connaît.
Ah oui, une quinzaine d'années, d'accord, mais c'est pour ça. Bah ok, je comprends mieux. Je savais pas que vous connaissiez depuis aussi longtemps.
Depuis tellement longtemps.
Ouais.
J'ai même plus.
Salim Nassur, donc fondateur de Mars, ex de Google, Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab36, et Frédéric Simotel, bien sûr, journaliste à BFM Business. On va maintenant parler de microprocesseurs et de l'infiniment petit. Vous le savez, cette bataille pour des processeurs de plus en plus petits. Il y a un acteur qui mène la danse, c'est TSMC, voilà. Et il faut savoir que TSMC va toucher beaucoup d'argent pour fabriquer ses puces aux États-Unis. Il faut savoir que cette chaîne d'approvisionnement mondial des puces est toujours en plein bouleversement. On le disait, le numéro un mondial du secteur se plaît de plus en plus aux États-Unis. Le géant taïwanais TSMC vient en effet d'y annoncer un nouvel investissement pour construire non pas une deuxième, mais bien une troisième usine dans le pays. Les explications de Léo Dumas.
Washington a mis le paquet pour décrocher cette troisième usine, 6,6 milliards de dollars de subventions pour convaincre TSMC d'ouvrir un site de plus en Arizona. Et l'enveloppe pourra même être alimentée avec 5 autres milliards sous la forme de prêts, des aides qui émanent du Chips and Science Act de Joe Biden. Il aura permis d'attirer déjà 65 milliards de dollars d'investissement du groupe taïwanais, dont 25 sur cette dernière usine. Elle produira les puces les plus avancées gravées en 2 nanomètres à partir de 2030, mais avant ça, TSMC aura largement démarré ses opérations en Arizona, où un premier site de fabrication doit ouvrir au début de l'année prochaine, puis un deuxième en 2028 pour produire là aussi des semi-conducteurs de dernière génération, de quoi permettre aux États-Unis de se protéger de futures pénuries et de se rapprocher de son objectif de 20% de parts de marché, alors qu'Intel et Samsung ont aussi lancé la construction de fonderies dans le pays.
Voilà les explications de Léo Dumas pour ces investissements colossaux, quasiment 12 milliards pour construire des usines de semi-conducteurs aux États-Unis. Alors le modèle est toujours le même, Fred, c'est-à-dire que c'est un partage en fait entre des subventions massives. Là notamment c'est l'état de l'Arizona qui va accueillir ces usines. Donc on donne beaucoup d'argent à TSMC qui après investit énormément.
Ils vont investir plus de 65 milliards derrière parce que derrière, d'ailleurs, tiens, parlons d'ASML, ils vont acheter des machines ASML pour pouvoir graver. Ces machines-là...
ASML, donc géant européen. Lui fabrique
des moules.
Des moules,
ces
processeurs.
Des moules qui font 150 tonnes.
Voilà,
ça reste un moule quand même. Ça arrive en 6 parties par avion. Il faut 6 mois pour les installer. Il faut 6 mois pour les paramétrer. C'est des trucs
incroyables.
Fin 2025, on pourra réussir à les. Mais en tout cas, voilà, c'est l'argent, il est là-dedans. Après, il est dans tout le complexe. Il faut que ce soit isolé. Enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Non, là, ce que l'on voit, alors TSMC, ça fait le Covid a fait comprendre à TSMC qu'avoir des grandes usines à Taïwan, c'était bien. Ils se sont rendus compte quand même que les pays disaient on serait bien qu'on ait un peu de production plus proche de chez nous, notamment aux États-Unis. Donc ils ont décidé d'aller aux États-Unis, au Japon, en Allemagne aussi, à Dresde. Mais là encore, tout ça, c'est toujours pour 2025. Enfin voilà, on attend un peu les investissements. Et puis évidemment, Taïwan est toujours sous le joug, sous cette épée de Damoclès, bien d'avoir sûr. Un peu une invasion économique.
De la reprise en main par la Chine.
Chinoise. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours là qui me parlait de Hong Kong. Il me dit mais pour ceux qui ne sont pas allés à Hong Kong depuis une dizaine d'années, pareil qu'aujourd'hui, c'est terrible, terrible. On est dans une ville chinoise alors que Hong Kong était une ville un peu New York, un peu
très libre.
Libre. Et donc on imagine Taïwan s'y tomber dans ce travers là. Et là aujourd'hui, il faut que TSMC, de toute façon, pour leur stratégie, il faut qu'ils aient d'autres sites de production. Ailleurs. Après, voilà, ça tombe encore aux États-Unis. On a du mal en Europe à attirer. Alors, c'est vrai qu'au niveau européen, dire qu'on donnerait 12 milliards.
C'est une question de taille de marché aussi.
Non, mais c'est aussi une question de pognon. Oui. Il y a un moment, tu ne sais pas sortir 12 milliards comme ça pour attirer une entreprise.
Et puis l'écosystème.
Il y a la question du marché, même si l'Europe est un grand marché, il y a la question quand même du potentiel du marché, et puis la question d'être coordonné sur les aides qui peuvent être amenées. Aujourd'hui, la commande publique, et si on dit publique, même au niveau européen, elle n'existe pas. Même si Bruno Le Maire saute sur sa chaise entre deux bouquins pour nous dire qu'il faut faire la commande publique européenne, aujourd'hui, elle n'existe pas, quoi. Donc, très clairement, les Américains, eux, ont un modèle qui est intégré, et il y a une cohérence, et la demande est là-bas. Très clairement.
Oui, et puis comme tu dis, en fait, il y a aussi... La Maison Blanche qui décide, alors que là c'est un peu compliqué de décider si tu veux, et c'est vraiment stratégique en fait ce qu'ils sont en train de faire, parce que tu vois, tu parles de TSMC, moi je pense que c'est encore plus stratégique pour les États-Unis que pour TSMC.
Et on n'évoque pas ouais, Intel c'est... aussi.
Pardon ? Non mais bien sûr,
on n'évoque pas Intel.
Mais quand tu regardes aujourd'hui, comme tu l'as rapidement évoqué, la grosse crainte si tu veux de Nvidia, de Sam Altman, d'OpenAI, c'est d'avoir TSMC à côté de la Chine en fait.
Oui bien sûr.
Et aujourd'hui le ramener aux États-Unis. Mm-hmm. D'ailleurs vous avez vu ce projet la Stargate de Sam Altman ?
Oui.
Projet à, ils veulent faire un data center de 100 milliards. C'est important de comprendre qu'ils ont vraiment compris qu'en fait la nouvelle currency, la nouvelle monnaie, mm-hmm. c'est l'énergie. C'est plus tellement le software. C'est avant le software, c'est le hardware, parce qu'en fait sans le hardware, tu peux pas pousser l'IA aussi loin que tu voudrais. Et donc ils sont en train de le ramener.
Et puis ce hardware est consommateur d'énergie, donc ils évoquent même des centrales nucléaires.
Mais c'est peut-être là où nous en Europe on aurait notre carte à jouer, parce qu'enfin notamment en France avec nos parce que pas l'Allemagne qui est encore beaucoup
et nos centrales, oui, si on n'avait pas perdu le savoir-faire, oui, c'est une bonne idée. Oui.
Ben voilà, non mais c'est le gros souci. Alors là, on va pas repartir ça. Non, ouais, mais on va repartir dans toutes les années.
C'est une question d'investissement. On est toujours dans ce vœu pieux de se dire, et c'est dommage parce qu'encore une fois, on avait des vraies technologies, mais on n'a pas l'argent aujourd'hui pour le financer. Et quand tu regardes, et moi ça fait même à l'époque où j'étais encore chez Google, quand ici on mettait par exemple quelques millions, Google a investi des milliards depuis des années dans ses infrastructures. Donc tu ne peux plus rattraper ce retard. Et là, c'est la même chose qui est en train de se passer au niveau de l'IA. Il y a des dizaines, on va dire centaines de milliards qui sont investis. Là où nous, on va péniblement, au niveau de la France, puis de l'Europe, mettre quelques milliards.
Nous, en Allemagne, par exemple, on était obligé de faire une co-entreprise avec Bosch, avec NXP, avec Infineon, avec TSMC. Voilà. Et puis, évidemment, du prêt du gouvernement, enfin, de l'administration européenne, de l'Union européenne, et puis du gouvernement allemand, hein, qui a accordé. Alors, c'est pas forcément des prêts, c'est des mesures fiscales qui vont dire, voilà, vous embauchez des gens, vous serez moins taxés. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Après, c'est vrai qu'on a un souci d'écosystème, parce que nous, qui on va fournir? On va fournir qui? Les marchands de voitures. Voilà, donc c'est des puces à 16-20 nanomètres.
On a STMicro qui est là-dessus.
Tu pourrais déjà, parce que même en marchand de voitures, il y en a quand même quelques-uns en Europe qui s'exportent plutôt bien d'ailleurs.
Non, puis il faut une vraie volonté politique, l'a montré Biden aux États-Unis.
Ouais. Exactement.
En disant,
exactement.
On rapatrie. Alors c'est sûr que les États-Unis ont la Silicon Valley, c'est pas né n'importe où, ils ont quand même cette culture et tout ça, culture du silicium. Nous, on l'a un peu moins, mais c'est un peu regrettable de voir que au Japon, TSMC y va, hein, beaucoup plus facilement qu'en Europe.
Après, quand on écoute un petit peu les propos de Maurice Chang, hein, qui est le fondateur de TSMC, il dit que tout n'est pas rose, hein, en Arizona. C'est compliqué parce que il a du mal à trouver la main d'œuvre qualifiée.
Oui. C'est ça ce qu'il avait dit, il avait retardé d'ailleurs.
Ça coûte très très cher, beaucoup plus cher qu'en Chine ou à Taïwan. Donc finalement, toute l'équation n'est pas résolue et ça va prendre du temps.
Ce qui est logique qu'ils disent ça parce que ce n'est pas rose pour que le billet soit plus vert.
Bah oui,
si
voilà,
tu veux. Donc plus tu vas montrer les contraintes, plus tu vas augmenter ce que va mettre l'État américain. Et il a raison, c'est son
clair.
Jeu.
Mais est-ce que ce n'est pas une réalité aussi? Est-ce qu'il y a autant de...
Mais c'est une réalité, mais au final, il y va.
Oui,
parce qu'ils ont su mettre les moyens, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, mais j'arrête pas de le dire, c'est ce combat, il est, c'est pour le prochain siècle. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, comment tu positionnes à la fois les modèles de langage, à la fois le hardware, celui qui a ça, et ça va être les États-Unis, c'est celui qui maîtrise le monde pendant très très longtemps.
Non, puis après, il faudra voir comment, dans quelles conditions TSMC va s'installer aussi là, dans les investissements, parce que je trouve que quand tu discutes avec des Américains, les Américains sont quand même très pro-américains. Là, c'est quand même un Taïwanais qui vient s'installer aux États-Unis. C'est pas la même.
Mais ils sont très business aussi. Hein,
ouais, voilà. Donc, oui, mais tu vois tout ce qui est puis autour des brevets, comment les brevets vont être partagés. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Après, Apple travaille depuis des années avec des entreprises comme TSMC, etc. Ça pose pas de problème particulier.
Oui, mais ils étaient chez eux.
Mais est-ce qu'on sait si par exemple TSMC va fabriquer les processeurs d'Apple? Parce qu'on sait qu'Apple essaie petit à petit de rapprocher un peu la production et l'assemblage de ses iPhones. Alors, ils ont du mal à y arriver, mais ils essaient de ne pas être dépendant à 100% de la Chine, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. On voit qu'ils se tournent vers l'Inde.
Moi, j'irais même plus loin. Est-ce qu'à un moment, Apple ne rachèterait pas TSMC?
Peut-être.
Ben, quand tu vois l'argent que tu as en cash dans les caisses, il y a un moment, tu peux te poser la question aussi. Est-ce qu'à un moment, à force de remettre tout ça, est-ce que tu ne rachètes pas cette capacité de production?
C'est pas leur métier d'être industriel.
Non, mais enfin, Apple ou d'autres, ou un Microsoft, ou un Google, ou ce que tu veux, si tu veux. Bah, Google, ça fait longtemps qu'ils font leur TPU, hein, depuis longtemps.
Oui, oui.
Ils n'ont pas attendu Nvidia pour le faire. Tu vois. Donc, ils sont vraiment en train de verticaliser, parce qu'ils ont vraiment compris que c'est hyper. En fait, tout ça est hyper connecté, et tu ne peux pas te permettre d'avoir un acteur, notamment qui puisse passer au niveau de la Chine. C'est hyper capital pour le master plan qu'ils ont. T'es obligé de tout contrôler, en fait.
Ce qui est inquiétant, c'est pour un avenir ou un jour. Non, mais un jour, aujourd'hui, on a une guerre économique sino-américaine où on bloque, hein, les Nvidia qui peuvent pas vendre en Chine et tout ça. Et qu'est-ce qui empêchera un jour, alors on reste des alliés quelque part, mais qu'est-ce qui empêchera un jour de dire, bon, l'Europe, vous leur donnez que tel type de processeur?
Enfin,
moi, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Surtout quand on vit ce monde qui est changeant, enfin, qui aurait pu imaginer ce qui se passe aujourd'hui? Il y a encore 5 ans.
Et puis on pourrait avoir le retour, tu vois.
J'ai discuté l'autre jour avec Michel Vandenberg, là, qui est le patron du campus cyber et qui vient, à titre perso, d'investir dans une société qui s'appelle SecLab, qui fait des boîtiers sécurisés, pas connectés, enfin un truc pour l'industrie très fort. Mais il y a des composants à l'intérieur qui sont américains. Mais il a quand même dû s'assurer que les composants avaient toujours le droit de sortir du pays pour venir non seulement en France pour être assemblés par SecLab, mais derrière pour être revendus, tu vois, parce que là il y a le droit de regard.
Sûr.
Vous revendez ça à qui?
Bon,
tant que c'est eux, enfin tu vois, c'est
oui, donc il y a le
donc et s'il a pu ses composants,
une traçabilité en fait,
il met la clé sous la porte, hein, donc voilà, c'est pour ça que c'est important de voir un peu comment tout ça est fait et d'avoir un semblant de souveraineté, mais bon, ce sera compliqué.
Bon, dans l'actualité aussi, il nous reste 9 minutes. Le gros morceau de ce week-end, c'est Tesla, donc, qui abandonne son projet de voiture à bas prix. On l'attendait, hein, cette voiture, pourtant. Hein, on est très déçus. Le groupe dirigé par Elon Musk travaillait donc sur ce nouveau véhicule grand public qui aurait pu rivaliser avec les constructeurs chinois. Très attendu sur le marché européen. Il aurait dû entrer en production l'année prochaine. Les explications de Raphaël Couder.
C'était un projet complètement confidentiel, mais un projet qui avait quand même commencé à se concrétiser. En janvier, Tesla avait envoyé des demandes de devis à ses fournisseurs pour produire cette nouvelle voiture à partir de la mi-2025. Voiture qui était décrite en interne comme un crossover compact d'entrée de gamme et donc attendue à un tarif abordable. On le sait, Elon Musk cherche depuis longtemps à produire des voitures moins chères. En 2020, il y a 4 ans, il promettait déjà une voiture à $25,000. Ce projet devait donc représenter l'arrivée de la marque américaine sur le marché grand public. On le sait, c'est un enjeu important pour Tesla. La concurrence est de plus en plus forte. Le chinois BYD a par exemple dépassé l'américain au rang de premier constructeur mondial de voitures électriques au dernier trimestre de l'année dernière. Depuis, Tesla a repris la première place, mais voilà, les challengers se multiplient. Le géant du smartphone Xiaomi vient lui aussi de sortir son premier modèle à bas prix et le groupe a déjà vendu 100 000 unités sur les premières 48 heures de précommande.
Voilà, donc grosse déception. On attendait cette voiture dans 2 ou 3 ans. Voilà, ça fait des années qu'on murmurait que Elon Musk avait ça dans ses cartons. Une petite citadine qui, en tout cas, plus petite que la Model 3 ou la Model Y, qui aurait pu envahir le marché européen. Parce que c'est vrai qu'en France, bon, il y a beaucoup de Model 3 et de Model Y, mais ce sont quand même de gros véhicules qui sont pas forcément adaptés aux infrastructures de l'Europe, quoi, en quelque sorte de la France. Et là, visiblement, patatras, c'est pas
le cas. Mais même d'un point de vue économique, hein, tous les grands constructeurs, alors j'enlève Porsche et Ferrari, hein, mais tous les Renault, Volkswagen, tout ça, ils ont besoin de leur modèle un peu vachalé. Peugeot a sa 205, 200, enfin a eu sa 205, sa 208. Volkswagen a eu sa Golf. Voilà, c'est le modèle qui va être produit en grande masse, on va en vendre plein, on va faire une marge importante dessus, même vendu à petit prix. Et là, et c'est ce qui fait vivre le reste. C'est ça qui permet d'avoir d'avoir un peu plus de fonds pour développer ailleurs. Et là aujourd'hui, et Renault a eu avec sa Clio, avec Elon Musk, il a pas ce modèle vache à lait. Alors il a sa modèle Y qu'il vend bien, mais voilà, il n'y a pas le modèle un peu de mass market. Comme espéré.
Il n'en a pas besoin.
Mais je pense qu'il n'en a pas besoin.
C'est pas son positionnement.
C'est pas son modèle.
Tu compares deux choses qui sont pour moi pas comparables. C'est un peu comme quand tu vois une prestation. C'est toujours celui que je prends quand tu vois une prestation. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a dit ah, mais c'est cher. Tu dis non, mais là, t'achètes une Tesla, t'achètes pas une Renault. Et tu vas pas comparer une Renault avec une Tesla. Ça n'a rien à voir, en fait.
Je te fais le pari que sur 20 ans, il est plus rentable.
Mais non, parce que sinon, Porsche aurait sorti une 4L.
Mais justement, tu dis.
Non, mais Porsche. Porsche, ils ont une production beaucoup plus petite que Tesla.
Mais justement, c'est là où c'est fort. C'est-à-dire qu'à un moment, tu arrives à faire quand même du mass product avec un produit haut de gamme. C'est du Apple, en fait, ce qu'il fait.
C'est du Apple.
Il te fait un iPhone qui coûte hyper cher, mais qui est vendu en masse.
Ouais, on est plus à 1500 euros, hein. On est à 25 000 ou 30 000 dollars.
25 000, c'est rien.
Non, je dis que toutes les courbes montrent que si dans un
constructeur, tu prends une Renault
pour un mass market, si tu n'as pas un modèle vachalé, tu...
Après, pour rejoindre les propos de Fred,
regarde, Jaguar, c'est la même chose.
Quand on voit la stratégie de Tesla, les premières Tesla coûtaient très très cher, 150 000 dollars, et petit à petit, il a atterri à un prix qui avoisine les 50 000 et 40 000 dollars. Non, mais pour terminer, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que le step inférieur, c'était de sortir une voiture à 25-30 000 dollars.
C'est super smart ce qu'il fait, parce qu'en fait, s'il descend, il va en frontal avec les Chinois, il ne peut pas gagner.
Est-ce qu'il n'a pas changé de stratégie? Est-ce qu'au départ, il ne devait pas sortir cette voiture?
Mais à un moment,
mais quand il a vu l'arrivée du marché chinois et tous ses concurrents. Mais au final, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Il a sorti Cybertruck. C'est l'inverse de cette stratégie.
Mais bien sûr.
Il a sorti un truc cher, énorme, fait pour le marché américain, et qui coûte une blinde. Là, il parle de robotaxi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a voulu faire une compte? Parce que certains remarquent qu'il a dit le 8-8, mais il n'a pas dit de quelle année. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira.
J'espère que ce sera cette année, parce
Du coup, faut pas dire qu'il va aller sur un marché concurrencer les autres grandes marques automobiles. Faut arrêter.
Mais aujourd'hui, non.
Il va rester dans un niveau de haut de gamme. Et moi, je pense que dans un niveau de haut de gamme, il va peu à peu se faire manger par les Mercedes, par les
hauts de gamme. Quelle est la voiture la plus vendue en Europe? Voiture électrique la plus vendue aujourd'hui en Europe? C'est le modèle Y. 19 000 immatriculations. De loin, au-delà de tout, n'importe quel autre constructeur. Tu vois?
19 000.
Ouais. Et donc là, aujourd'hui...
On est loin du mass market et des 230 000...
Par rapport à de la voiture électrique, si. C'est du mass market.
Mais le jour où les autres vont baisser, vont rentrer vraiment avec des modèles...
Mais les jours ne pourront pas beaucoup baisser, parce qu'une voiture ne va pas coûter 10 000 euros. Une voiture de ce standing. Aujourd'hui,
regarde, il y a les Chinois, je ne sais plus quel Chinois avait annoncé qu'il projetait de sortir une voiture à 10 000 euros.
Mais ce n'est pas le même marché.
Bien sûr, mais si tu veux attaquer, aujourd'hui, on arrive un peu à un plateau. C'est-à-dire que tous ceux qui voulaient une voiture électrique l'ont plus ou moins.
Tu peux trouver le catalogue, oui.
Le frein, c'est le prix. Pour les autres, c'est-à-dire que,
non, pas que
et je sais pas si vous avez vu, il y a un rebond du thermique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que finalement, on est en bout de course, on a envie de changer de véhicule, on se tourne vers une électrique. Alors on peut avoir peur de l'autonomie de la voiture, des bornes, etc. Enfin, de tout le process, parce que ça change pas mal de choses. Mais parce qu'une thermique, ça coûte moins cher aussi.
Mais c'est pas que ça. C'est qu'à un moment, faut être conscient que quand on achète une voiture électrique, c'est soit parce que tu peux la charger au bureau, et ça veut dire que dans ton bureau il y a des trucs, ou soit tu peux la charger chez toi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce cas de figure.
Donc ça veut dire que tu as un pavillon. Ou ça veut dire que tu as le sous-sol de ton immeuble et câblé.
Et donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce cas de figure.
Donc déjà, tu ne prends qu'à Paris, par exemple, ça n'existe pas. Donc déjà, il y a ce premier point. Après, il y a la cible aussi. De qui peut se payer ça? Oui, tu peux avoir des voitures électriques sur tous les marchés aujourd'hui, mais effectivement le rappel on va dire, ou le parallèle avec Apple, tu vas acheter l'expérience Tesla, c'est-à-dire en gros le parc de recharge, la voiture elle-même, tout ce qui va bien, etc., etc. Et donc la cible est pas la même. Donc à mon sens, c'est un non-sens de faire une voiture pas une Tesla pas chère.
Bien sûr, aujourd'hui complètement, c'est un non-sens.
C'est un non-sens s'il ne voulait pas, et donc c'est plus la peine d'aller concurrencer les grands constructeurs. Il va rester dans son domaine du haut de gamme ou milieu haut de gamme, et là il va se prendre de plein fouet les Mercedes, les Audi, les BMW qui sont en train de remonter, parce que les Mercedes, quand ils vont commencer à se lancer dans la voiture électrique, et là pour moi, et ce pourquoi il voulait aller vers le modèle 2, c'est justement, il s'est dit il faut que j'ai un petit modèle.
Excusez-moi, j'aimerais qu'on avance, il nous reste deux minutes. Est-ce que c'est pas justement la réponse, le tweet qu'il a publié là, ce week-end, en disant on se tourne vers les robots taxis? En tout cas c'est pas son tweet, hein. Il y aura des nouveautés.
Mais qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il remet l'accent sur nous, on maîtrise la techno. Nous, on est les bons. Et aujourd'hui, en face, c'est pas probant. Merco, c'est peut-être là qu'il Mercedes, BMW ou autre, très honnêtement, ils ont fait des vrais efforts. Ça a vachement évolué. Mais le système embarqué, pas encore au niveau de ce que tu peux trouver sur Tesla. C'est pas encore parfait, on n'y est pas encore. Mais ils ont fait énormément de progrès. Mercedes a fait beaucoup de progrès.
Le confort de la voiture est complètement différent pour le même prix.
Non mais en fait là tu parles de
confort. Quand tu te balades dans les communautés Tesla, je te jure que vraiment pour eux c'est la même chose que quand tu achetais un Mac en 1984.
Mais bien
tu
sûr.
Es un défricheur.
Mais
tu
bien
es,
sûr.
Tu oui. as l'étendard, oui, tu vois, sûr, du défricheur oui, contre les thermiques.
Rappelle-moi la part de marché des Mac contre la part de marché des PC.
Rappelle-moi la part de l'iPhone et la valeur gagnée par l'iPhone, 20%.
Mais l'iPhone, on est
80% de la valeur.
Oui, mais on est à des appareils à 1 500 $. Là, tu parles de.
C'est pareil, 1 500 $.
Mais non,
Frédéric, 1 500 $ quand tu gagnes 1 500 € par mois,
c'est des connards de produit à 20 000
bah c'est la même chose.
À 10 000
Donc tu vas acheter une voiture à 20 ou 30 000 quand tu gagnes 20 ou 30 000.
Non mais après, attendez, on parle de dizaines de milliers d'euros. Rappelons qu'aujourd'hui, on n'achète plus une voiture cash. La plupart du temps, c'est 300, 400 euros. L'iPhone, c'est 30 ou 40 euros par mois. Il y a plein de trucs. Donc le prix, c'est ce qui masque un petit peu la forêt, finalement.
Enfin, je pense. Si je peux, il revient juste à son idée de base. Son idée de base, c'est moi, je veux faire une voiture qui est autonome. Et en fait, il y avait deux idées de base. Quand tu regardes même dans le mission statement de Tesla, il a fait le premier et il a réussi. C'est moi, je veux faire une voiture qui va emmener la planète à être beaucoup plus sustainable, donc beaucoup plus green. Donc il a poussé tous les autres constructeurs à se mettre à l'électrique. Oui ou non? Donc il a rempli déjà cette tâche. Le deuxième truc, c'est je veux rendre une voiture
de valeur logistique et la chaîne de valeur.
Non mais d'accord. Okay. Mais il a poussé tous les constructeurs alors qu'il arrive au début.
C'est clair, on n'aurait pas eu Tesla.
Il a fait déjà la première chose qu'il a dit qu'il ferait. La deuxième, c'est moi je veux faire une voiture qui roule toute seule, autonome. Et c'est ce deuxième truc qu'il est en train de chercher.
Enfin, moi, je me méfie. Ça fait des années.
Ah, mais évidemment, évidemment.
Juste un truc, ça fait des années qu'il nous promet la voiture autonome.
C'est vrai. Encore une fois, moi, j'aime bien.
Je suis encore un peu dubitatif.
Il y a du pour et du contre. Non, mais d'accord. Mais pareil, quand il avait lancé SpaceX, on avait dit c'est pas possible. Quand il a lancé Tesla, c'est pas possible. Donc oui, aujourd'hui, à date, c'est pas possible de faire cette voiture autonome.
Il parle d'autonomie, mais il parle surtout de modularité. T'as vu, il dit surtout la voiture, c'est la voiture à tout faire. On pourra se reposer, on pourra travailler, on pourra tout ça. Donc
il faut des rêveurs qui poussent l'industrie à aller un peu plus loin.
Vous savez quoi, quand je lève les mains comme ça, c'est pas parce que je suis menacé, c'est parce que je suis menacé par Fabien, par le réalisateur qui me dit le sommaire est prêt.
Par Léa et son tech flash.
Voilà, c'est ça. Oui. Et quand on me dit le sommaire est prêt, c'est pas bon, hein, vous savez, c'est moi qui vous le dis. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci Salim, toujours un plaisir. Mars, bien évidemment.
Avec deux A, parce qu'à chaque fois on va croire que c'est Elon.
Mais non.
Mars avec deux A.
C'est ça. Ou alors la barre chocolatée, mais non.
Tu sais pas quoi, attends, juste là, le jour, il y a quelqu'un qui vient pour un stage.
Ça gueule en
rire. Et il me raconte qu'il pensait qu'il allait chez Mars, la barre chocolatée. Donc non, Mars est avec deux A.
Voilà, ça
n'a rien. Je fais pas de Mars.
Voilà, vous serez déçus si vous aimez les sucreries. Mais en revanche, si vous aimez l'IA, là, vous allez vous régaler.
L'IA, les formations.
Merci beaucoup, Damien Douani.
Et plaisir, Fred. François.